RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La nuit suivante, comme d'habitude, nous allons présenter le magazine culturel qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette mission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi, les infos de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassadeur des États-Unis a rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères. Le président du Conseil consultatif présidentiel de la République d'Indonésie part au Parlement européen. L'Université Gadjah Mada s'attend à ce que des professeurs étrangers contribuent à améliorer la qualité des ressources humaines et de la recherche. Le ministère indonésien des Affaires étrangères organise l'exposition de 60 ans du rôle de l'Indonésie. Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation espère l'Indonésie peut dupliquer la bonne pratique du Sud Sumatra dans l'agriculture. L'Indonésie et la Chine sont d'accord pour construire un laboratoire de réacteurs de recherche. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassadeur américain en Indonésie, Joseph R. Donovan, a rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi. La réunion s'est déroulée à huis clos au ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie à Jakarta vendredi. Après la réunion, l'ambassadeur Donovan a déclaré que lui et la ministre Retno Marsudi avaient discuté des relations bilatérales entre les deux pays. Dans un proche avenir, il mènera des consultations liées aux relations bilatérales des États-Unis avec divers pays, y compris l'Indonésie. Il a donné également une appréciation d'une variété de la politique étrangère indonésienne qui contribue positivement à la communauté internationale, notamment aux États-Unis. La présidente du Conseil consultatif présidentiel de l'Indonésie, Madame Sri Adiningsih, est devenue le conférencier à la réunion annuelle des questions économiques ou le premier sommet annuel de la liberté économique au Parlement européen. Ce sommet a été assisté par 35 conférenciers de 25 pays et 300 participants du gouvernement, du secteur privé, les partis politiques et aussi une équipe de penseurs de différents pays. La réunion a discuté de divers sujets, entre autres l'aide économique pour la Grèce, l'économie socialiste au Venezuela et la future libéralisation du marché en Asie du Sud-Est. Cela a été dit par le Bureau de l'information, des affaires sociales et culturelles de l'ambassade de la République d'Indonésie à Bruxelles, Belgique, Antje Mailani, vendredi. Sri Adiningsih a transmis le thème la transformation économique de l'Indonésie et à donner une idée au public et aux décideurs dans l'Union européenne liée à la direction du développement économique du président Joko Widodo, axée sur le développement des ressources humaines, le développement des infrastructures et aussi le renforcement de la compétitivité de l'Indonésie dans le commerce et l'investissement. Selon Mme Sri Adiningsih, la vision nationale Nawacita, qui se concentrait sur la répartition équitable du développement économique, comme par exemple en développant les villages et les régions sous-développées dans la partie orientale de l'Indonésie, l'amélioration de la qualité de vie des Indonésiens, l'amélioration de la productivité et la compétitivité internationale, ainsi que d'encourager le développement de l'économie nationale. La conférence du Forum économique mondial de Davos en Suisse a réuni des autres responsables du gouvernement, des partis politiques, des membres du Parlement européen, des hommes d'affaires, des universitaires et aussi des penseurs pour discuter diverses réformes de politique économique de l'État. Le recteur de l'Université de Gajah Mada, M. Panet Mulyono, Le recteur de l'Université de Gajah Mada, M. Panet Mulyono, a déclaré que l'Université Gajah Mada, ou UGM, était prête à impliquer des professeurs étrangers dans l'institution afin d'améliorer la qualité de l'éducation dans ce pays. Ceci a été dit par Panet Mulyono après avoir rencontré le vice-président indonésien M. Yusuf Kalla au bureau du vice-président Jakarta récemment. M. Panet Mulyono a révélé que les enseignants étrangers dans l'université d'État étaient des catalyseurs pour encourager la compétence et la qualité des enseignants locaux en apprenant des professeurs étrangers et en établissant des réseaux éducatifs avec d'autres enseignants étrangers. Les professeurs étrangers pourraient également améliorer la qualité de la recherche et de la technologie.
En
fait, l'existence de professeurs étrangers est maintenant plus utilisée comme un catalyseur, comme notre motivation pour que nous puissions aussi avancer plus vite. La principale est comment les professeurs étrangers, quand ils sont en Indonésie, peuvent apporter le réseau à l'étranger et ensuite ils peuvent participer à la recherche en Indonésie. Selon M. Panet Mulyono, le nombre de professeurs étrangers sera limité en accord avec le besoin du domaine de la science à l'université. Les professeurs étrangers peuvent ouvrir des réseaux de sciences et de financement de l'étranger s'il existe des projets de recherche et de technologies qui nécessitent une aide étrangère. La politique de participation des professeurs étrangers devrait également encourager les professeurs locaux à développer la recherche et la technologie afin que la qualité des ressources humaines indonésiennes puisse rivaliser au niveau mondial. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère indonésien des Affaires étrangères organise une exposition de photos intitulée « Indonésie, un véritable partenaire pour la paix mondiale » au siège de l'ONU à New York, les États-Unis, illustrant les 60 ans le rôle de l'Indonésie en tant que candidat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020. Cette exposition peut fournir une image entière de la contribution réelle de l'Indonésie en tant que partenaire de la paix, la stabilité et la prospérité du monde, a déclaré le directeur général du ministère indonésien des Affaires étrangères pour la coopération multilatérale, Hidalgo Rudiard, par un communiqué de presse reçu par Antara vendredi. Diverses actions de troupes indonésiennes dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans la résolution des conflits mondiaux et régionaux sont aussi bien affichés dans l'exposition. Plus de 200 invités composés d'ambassadeurs et fonctionnaires de l'ONU sont présents à l'ouverture de l'exposition. Dans l'exposition qui se déroule du 9 au 20 avril, l'Indonésie a également présenté son travail sur la diplomatie humanitaire ainsi que la coopération Sud-Sud qui soutient le développement des pays en développement dans la région d'Asie et du Pacifique depuis 1955. Ce serait très bien si les meilleures pratiques de Sumatra du Sud dans l'agriculture peuvent être dupliquées dans d'autres provinces d'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Mme Hilal Elfer, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation, à la fin de sa visite de travail sur la zone de Marais, la région de Banyu Asin, Sumatra du Sud, jeudi. Selon le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, les meilleures pratiques et le succès du gouvernement régional du Sud Sumatra pour faire face aux défis spéciaux à Sumatra du Sud, où 70% de sa superficie est dominée par des terres sous-optimales sous la forme de marécages et la zone de marais, l'innovation, la technologie et le partenariat avec le secteur privé peuvent améliorer la productivité des rizières dans les zones sous-optimales. Auparavant, seulement une récolte par an, maintenant deux jusqu'à trois récoltes par an. En plus de l'appréciation de l'optimisation des terres sous-optimales, le rapporteur spécial sur droit à l'alimentation apprécie divers programmes de Sumatra du Sud pour maintenir la disponibilité des terres agricoles pour la nourriture, entre autres un programme de certification des terres pour les transmigrants dont l'utilisation est divisée en champs cultivés et en terres d'affaires. Deuxième, le règlement qui oblige les entreprises à allouer 10 jusqu'à 20% des terres industrielles pour les cultures vivrières qui sont gérées par la communauté. Et troisième, la réglementation locale pour protéger les terres cultivées de la conversion des terres. L'Indonésie et la Chine ont convenu de construire un laboratoire de réacteurs de recherche en multifonction avec le refroidissement du gaz à haute température, après que le ministre de la Recherche et Technologie et de l'Enseignement supérieur de l'Indonésie, M. Muhammad Nasir, et le ministre chinois de la Science et de la Technologie, Wang Jigang, aient signé un accord à Pékin jeudi. L'innovation de la Chine a besoin de l'ASEAN. Vice-versa, l'innovation de l'ASEAN a besoin de la Chine. C'est ce qu'a affirmé Wang Jigang suite à la signature de la déclaration en marge de l'annoncement de l'année d'innovation ASEAN-Chine 2018 et le forum d'innovation Chine-ASEAN. En plus de l'Indonésie, la Chine a également mis d'accord sur le développement d'un centre de recherche avec le système ferroviaire avec la Thaïlande, le développement du laboratoire d'énergie nouvelle et renouvelable avec le Laos, le développement du laboratoire de communication radar et de satellite avec le Myanmar. Muhammad Nasir visitait la Chine du 12 au 15 avril 2018 et a tenu une réunion bilatérale avec Wang Jigang au ministère de la Science et de la Technologie de Chine à Pékin. Muhammad Nasir a également visité l'université de Tsinghua et rencontré les membres de l'Association des étudiants indonésiens en Chine à l'ambassade d'Indonésie vendredi. Il a continué sa visite à Chengdu, province de Sichuan, samedi, pour observer la zone de développement de l'industrie de la technologie, le centre de recherche et de développement du train rapide à Sinan Jiatong Université, le centre de recherche et de développement pour le panda Jiang et aussi le musée Dufu. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente divers infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Est. L'Indonésie, Timor-Leste et l'Australie ont tenu une réunion à Labuan Bajo, Nusa Tenggara Est, du 11 au 13 avril 2018. Le chef du bureau provincial du tourisme de Nusa Tenggara Est, Marius Ardu Jelamu, a déclaré mardi que l'un des points de l'ordre du jour était à discuter de la coopération touristique entre les trois pays. Outre le tourisme, l'activité organisée par le ministère coordinateur de l'économie discute aussi la coopération dans les domaines de l'économie, des investissements, des affaires, de la connectivité terrestre, maritime et aérienne, de la coopération communautaire culturelle, de l'élevage, de l'agriculture et de la santé. Surtout pour le secteur du tourisme, Marius proposera pour l'ouverture de la connectivité aérienne, à savoir des vols au départ de Darwin, Australie, vers Kupang et Labuan Bajo. Ensuite, l'info de Kota Waringin West, Kalimantan Central. Le Fonds mondial pour la nature WWF d'Indonésie et le ministère de la Marine et des Pêcheries ont mené une enquête sur les herbiers et le dugong à Gosong Beras Basah. Lamina Juraij, président de l'équipe de sondage dugong et herbiers, a déclaré que l'objectif initial de mener des études sur le dugong et les herbiers est de déterminer les conditions dans la zone réservée d'être zone régionale de conservation de l'eau du parc touristique aquatique Senggora Sepagar et la mer environnante, couvrant 61 362,15 hectares par le gouvernement de la province Kalimantan Central. Cette activité d'étude des herbiers et des dugongs fait partie du projet de conservation des dugongs et des herbiers par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche avec les partenaires d'exécution du WWF de l'Indonésie, l'Institut indonésien des sciences et l'Institut agricole de Bogor. La dernière info vient de Yogyakarta. Des centaines de membres de Scout ont assisté à la cérémonie commémorant l'anniversaire du père de Scout d'Indonésie, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, à Pagelaran Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat, mercredi nuit. Le président du mouvement Scout national, Adiaksa Daud, lors de la cérémonie, a dit que l'événement reflétant la naissance du père de Scout d'Indonésie, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sera un marqueur du jour du père de Scout d'Indonésie ou HB9D dans les prochaines années tous les 12 avril. En commémorant l'anniversaire du Sultan Hamengkubuwono IX, tous les membres de Scout d'Indonésie peuvent imiter tout l'exemple de Sultan Hamengkubuwono IX, y compris les compétences de vie, l'esprit de défense de l'État, le volontariat, jusqu'à la mise en œuvre de Satya Dharma Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX est l'un des leaders qui a réussi à réunir diverses organisations scout en Indonésie dans un conteneur, à savoir Pramuka ou scout. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca. Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 14 avril. Nous commençons par l'événement du navire britannique Titanic. Le 14 avril 1912, le Titanic s'est écrasé dans un iceberg dans l'océan Atlantique Nord et a coulé. En raison du manque de bateaux de sauvetage et d'autres biens d'urgence, plus de 1500 personnes ont été tuées. Parmi plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord du Titanic, seuls 700 ont survécu, principalement des femmes et des enfants. Le Titanic a commencé une croisière de 4 jours de Southampton en Angleterre à New York aux États-Unis. Ce navire est le plus grand navire du monde lors de son voyage inaugural. L'un des 3 paquebots olympiques exploités par White Star Line. Le navire a été construit de 1909 à 1911 par le chantier Harland & Wolff à Belfast. Nous sommes passés au retour au pouvoir d'Hugo Chavez. L'influence d'Hugo Chavez sur les civils et les groupes militaires vénézuéliens est toujours forte. Après avoir été évincé de la direction du Venezuela le 14 avril 2002, avec la pression militaire et le pouvoir populaire, Chavez est retourné au palais présidentiel à Caracas et a pris le contrôle de l'État. Le déménagement fut facile pour Chavez, car quelques heures plus tôt, 3000 soldats de la garde nationale d'honneur, la garde du palais qui était loyale à Chavez, s'emparèrent du palais. Dans son discours après son retour au palais, Chavez a déclaré refusant de démissionner et appelant tous les partis à s'unir dans sa coalition. Nous terminons avec la mort du journaliste senior indonésien Rosiane Anwar. Rosiane Anwar est décédée le 14 avril 2011 à l'hôpital Metropolitan Medical Center Jakarta à l'âge de 89 ans en raison de problèmes cardiaques. Rosiane Anwar est enterrée dans le cimetière des Héros de Kalibata, Jakarta. Rosiane Anwar est une figure de la presse indonésienne bien qu'elle soit plus précisément décrite comme un historien, un écrivain et un humaniste. Il est quelqu'un qui est très actif dans l'écriture. Rosiane Anwar a écrit environ 21 titres de livres et de centaines d'articles dans presque tous les grands journaux et magazines en Indonésie, ainsi que dans certaines publications étrangères. Il a commencé sa carrière journalistique en tant que journaliste de la Grande Asie pendant l'occupation japonaise de 1943 jusqu'à ce qu'il devienne rédacteur en chef de Siasat de 1947 au 1957 et Pedoman de 1948 au 1961. En 1950, ensemble avec Usmar Ismail, il a fondé la Compagnie Nationale de Film. Dans son premier film, Darah dan Doa, Rosiane Anwar est devenu un extra. En 2007, Rosiane Anwar et Herawati Diah, qui ont co-fondé l'Association des journalistes d'Indonésie à Surakarta en 1946, ont reçu All-Star Achievement Award de l'Association des journalistes indonésiens Sangha. cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en beau titre, l'enquête BI montre que l'expansion des activités commerciales se poursuit. L'enquête des activités du monde d'affaires de la Banque d'Indonésie a déclaré que l'expansion des entreprises se poursuivra après la performance dans divers secteurs a augmenté au premier trimestre de 2018, a déclaré le directeur exécutif du département de statistiques de la Banque d'Indonésie, Yati Kurniati, jeudi à Jakarta. Yati Kurniati a déclaré que les activités commerciales au premier trimestre ont augmenté principalement dans les secteurs de l'agriculture, des plantations, de l'élevage, de la forêt et de la pêche et de l'industrie de traitement. Selon Yati Kurniati, l'amélioration des activités dans divers secteurs se poursuivra au deuxième trimestre de 2018 en ligne avec la demande croissante avant Ramadan et Eid al-Fitr. Le secteur de traitement, qui comprend les textiles, les métaux de base, les boissons et le tabac, les articles en bois et le papier et les imprimés, devrait connaître une croissance au cours du prochain trimestre. Surtout pour le textile, certains ont été distribués en préparation avant Eid al-Fitr. Yati Kurniati a ajouté, une autre expansion dans le deuxième trimestre de 2018 devrait également se produire dans le secteur agricole, en particulier dans les produits alimentaires, les plantations, l'élevage, la foresterie et l'agriculture. L'enquête a également noté une amélioration de la performance des entreprises, comme en témoigne de l'augmentation de l'emploi au deuxième trimestre de 2018 dans le commerce, l'hôtellerie et la restauration, les services et la finance, l'immobilier et les services aux entreprises. Yati Kurniati a déclaré, les répondants ont déclaré que l'augmentation du nombre d'employés est également motivée par l'augmentation des ventes, est également causée par l'expansion des affaires. Cette enquête illustre également la condition de liquidité et de rentabilité des affaires au premier trimestre de 2018 en bonne condition, avec un accès à un crédit bancaire plus facile. Les résultats de l'enquête des affaires de Banque Indonésie pour le premier trimestre de 2018 ont également révélé que les opérateurs économiques sont optimistes que l'inflation va diminuer cette année à 3,44% contre 3,61% l'année dernière. L'enquête des affaires prend un échantillon de 3200 moyennes et grandes entreprises à travers le pays, avec un chiffre d'affaires minimum de 2,5 milliards rupiah par an et 20 mains d'œuvre. Globalement, l'objectif de la publication d'une enquête sur les activités d'affaires consiste à avoir une idée de l'évolution de l'activité économique au cours du trimestre, à obtenir rapidement des informations sur la croissance attendue de l'activité économique et à orienter la croissance du produit intérieur brut. Chers amis, c'était mon Indonésie. connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant la plage Nglambor à Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Les plages de la côte sud de Yogyakarta sont directement adjacentes à l'océan Indien. Les ondes malignes font souvent les gens peur de les approcher. Mais cela ne signifie pas que toutes les plages ne peuvent pas être utilisées pour le déménagement. À Gunung Kidul, il y a de belles plages qui sont abritées par des îles de corail, de sorte que les vagues de la plage sont assez calmes et sûres pour se déplacer. C'est la plage Nglambor. La plage Nglambor se trouve au village Purwodadi, district Tepus, en région Gunung Kidul. De Yogyakarta, la plage Nglambor peut être atteinte environ 2 à 3 heures en véhicule. La route n'est pas trop grande, donc l'autobus de tourisme ne peut pas entrer. Les véhicules ne peuvent pas être garés sur la plage car l'endroit est assez étroit. On doit marcher d'abord pour prendre un taxi moto depuis le parking. Les lignes de plage ne sont pas trop larges, donc pas adaptées pour jouer le volley de plage ou bronzer. Le sable n'est pas lisse, il est noir. C'est parce que le sable est formé de shrapnel de biote marin et de corail qui est érodé par les vagues en permanence. La condition de l'eau sur la plage qui ressemble au bassin est sans danger pour la baignade et la plongée en apnée, car il y a deux collines de corail situées au milieu de la mer. Des collines de corail qui ressemblent les tortues géantes qui servent de brise-lames et de retardateurs de vagues, de sorte que les vagues qui arrivent à la plage ne sont pas grandes et ont tendance à se calmer. Les vagues lentes font le biote marin et les récifs coralliens deviennent fertiles. L'eau sur cette plage est claire, donc vous pouvez voir le fond de la mer. À la plage Nglambor, vous pouvez vous contenter de jouer de l'eau, de la baignade à la plongée en apnée. Mais si vous ne voulez pas vous mouiller, vous pouvez juste chercher des pots et des coquillages et des pierres lisses et colorées. Vous pouvez également trekking les collines de corail qui embrasse cette plage. De la hauteur de la colline, la forme de deux tortues des îles de corail dans la mer sera plus clairement visible. Les rangées d'autres plages semblent vagues, comme la plage Vediombo. De la hauteur de cette colline, vous regardez également le coucher du soleil. Si vous avez longtemps, vous pouvez essayer l'activité riveraine à partir de la plage Nglambor à l'ouest ou à l'est. Si vous marchez le long de la plage à l'est, vous pouvez escalader les collines à l'est et continuer vers les plages Siung, Watulumbung et Wediombo. Si vous allez vers l'ouest, vous verrez les plages Jogan, Timang, Portungal et Indrayanti. Si vous voulez passer la nuit autour de la plage en camping, vous pouvez installer une tente sur l'une des plages. Le billet d'entrée à la plage Nglambor est 5000 rupiah, alloué de l'équipement de plongée en apnée est autour de 50000 rupiah. Avant de faire de la plongée en apnée, vous devez contacter le responsable à l'avance pour savoir quand le meilleur moment est possible. Car la clarté et la visibilité de l'eau sont déterminées par le rat de marée. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre, traité des feuilles de corosol pour les médicaments pulmonaires. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Corosol, soit son nom latin Annona muricata L, est une plante bénéfique provenant des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cette plante a été apportée par les Hollandais à l'archipel au 19e siècle. Corosol peut facilement pousser partout, mais il est préférable de le planter dans une zone assez aquatique. Cette plante pousse ensuite et se développe dans différentes régions d'Indonésie. En Indonésie, il existe plusieurs appellations pour les corosols, telles que Nangka Sebrang, Sirsak, Sundanais, Nangka Landa, Javanais, Nangko Belando, Palembang, et ainsi de suite. Au début, la partie la plus utilisée est le fruit. Autres parties de corosol sont rarement utilisées. Les feuilles de corosol sont devenues populaires après les résultats de la recherche indiquent que le contenu dans les feuilles de corosol peut traiter le cancer. Avec le passage du temps et le développement de la science, les feuilles de corosol sont déclarées la partie la plus bénéfique. En général, les feuilles de corosol contiennent des composés proactifs tels que les acétogènes, l'anocatacine, l'anocataline, l'anonol, la caclorine, l'acide gentisique, l'anomourine, l'acide linoléique et d'autres. Tous les ingrédients sont efficaces pour la santé. Les feuilles de corosol ont un très bon contenu pour guérir diverses maladies. L'une d'entre elles, la maladie pulmonaire. C'est parce que dans les feuilles de corosol, il y a une teneur acétogénique qui est utile pour inhiber le développement de virus qui attaquent les poumons. En outre, les feuilles de corosol contiennent également des composés antioxydants qui peuvent tuer les cellules cancéreuses trouvées dans les poumons. Voici comment traiter les feuilles de corosol pour traiter les maladies pulmonaires. Prenez 10 à 15 feuilles de corosol qui ont été séchées, puis faites bouillir avec 3 tasses d'eau jusqu'à ce qu'un verre d'eau restant. Une fois refroidi, filtrez l'eau et ensuite boire régulièrement, autant que 3 fois par jour. Une autre source écrit: 10 à 12 feuilles de corosol qui ont été lavées sont séchées au soleil pour sécher. Après, cela écrasé, puis séché dans le four, puis levé. Ensuite, prenez 2 cuillères de poudre de feuilles de corosol infusées avec une tasse d'eau chaude. Remuez et laissez reposer jusqu'à 5 minutes. Faites-le 2 fois par jour. Bien qu'il ait un effet positif, mais pour consommer l'eau des feuilles de corosol bouillie, devrait toujours être fait avec la supervision de médecins à base de plantes ou des personnes qui comprennent l'utilisation de plantes médicinales pour le traitement. Parce que l'utilisation excessive et les erreurs de traitement peuvent également aggraver l'état des poumons. Chers amis, c'est l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffuseur depuis Jakarta. Chers amis, voici l'édition du magazine musical. Et cette fois, nous allons présenter les chansons du groupe de musique de Chang Chuter. Écoutons maintenant la première chanson intitulée Samara. Bonne écoute.
Samara.
Voilà la chanson intitulée Samara, chantée par The Chang Chuter. Ce groupe de musique est un célèbre groupe en Indonésie qui est présenté depuis 2004. Le groupe de Bandung Java West se compose de 5 personnes. Ce sont Tria comme chanteur, Kibil, guitariste, Alda, guitariste, Dipa, bassiste et Eric comme batteur. Chang Chuter est commencé par Dipa, Tria et Kibil. Ils étaient des amis du campus et ensuite Alda et Eric ont également rejoint parce qu'ils sont les amis de Kibil dans un groupe au lycée. Le nom de Chang Chuter a été pris du surnom de l'ami de Kibil pendant le lycée. Cependant, dans certaines interviews, le personnel de Chang Chuter a interprété leur nom de groupe comme The Cute. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de ce groupe intitulé Hijra à Londres. Bonne écoute. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter la rubrique musicale chantée par groupe de musique Chang Chuter. Le style de musique de ce groupe utilise et varié. Il y a le rock, indie pop, le jazz, même le blues. Ils ont nommé leur flux de musique comme à la guitare, garage, rock and roll. Bon, chers amis, voilà l'édition du magazine musical pour aujourd'hui avec groupe de musique de Chang Chuter. Avant de terminer cette émission, on écoutera les deux dernières chansons intitulées Je t'aime et Préserver les arbres. Merci à tous et au revoir.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie et le service international de RRI.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.